14h-16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Alors, il est l'inventeur de la haute qualité relationnelle qu'il aime surnommer HQR et il est avec nous durant ces 2 heures. C'est en effet Christophe Médici qui va nous tenir compagnie afin de nous aider à améliorer nos relations avec les autres. Je dirais même nos relations au monde et bien sûr notre relation à nous-mêmes. Personnellement, j'ai plutôt tendance à parler d'écologie relationnelle, peut-être parce que déjà toute petite, j'avais une notion assez claire de ce qu'était l'écologie. Comment en effet peut-on se sentir bien dans un univers qui respire mal ? Comment peut-on mettre sa vie en ordre si on vit dans un désordre permanent ? Et si on en revient au couple, comment parvenir à maintenir une belle relation harmonieuse si il n'est pas possible de communiquer vraiment ? Parce que c'est en communiquant que nous pouvons détruire les mauvaises interprétations, enfin plutôt déduire, pardon, de mauvaises interprétations. Et pour retrouver un terrain d'entente, eh bien, il faut nettoyer le jardin intime. Et pour ça, il faut enlever les mauvaises herbes et arroser les belles plantes. Alors, je vous propose de venir nous évoquer la manière dont vous cultivez votre rapport au monde, aux autres et à votre partenaire en nous appelant au 0-826-300-300. Mais d'abord, je dis bonjour à Christophe Médici.
Bonjour Brigitte Lahaye, bonjour à tous les auditeurs.
Alors Christophe, que pensez-vous de mon écologie relationnelle ?
Eh ben, d'abord, vous imaginez combien je suis touché puisque vous me faites l'honneur qu'on parle de ma méthode que je transmets depuis 13 ans. Et puis j'ai tellement de gratitude pour vous parce que je pense que de toutes les animatrices et de tous les journalistes du PAF, vous êtes la plus HQR de France et de loin. Vous êtes la première, rappelez-vous Brigitte, en 2009 à avoir fait écho à ma méthode. Et ça fait très longtemps que effectivement je transmets cette méthode qui est très concrète. Hein. Quand vous parlez d'écologie relationnelle, évidemment vous êtes absolument dans le mille. Qu'est-ce que c'est l'écologie relationnelle ? C'est éduquer sa manière de communiquer pour ne pas s'envoyer de messages toxiques. Et c'est bicéphale. Ne pas en envoyer à l'autre, son mari, sa fiancée, son fiancé, ses enfants, mais aussi au travail, mais aussi à l'école, entre enseignants. Mais aussi, c'est pas s'en envoyer à soi-même. Or, pour être honnête, Brigitte, vous savez que j'estime souvent, je le mets dans pas mal de mes livres, qu'on est au Moyen-Âge relationnel encore en 2022. Pourquoi ? Parce que malheureusement, volins nolins, ce n'est pas le modèle dominant et énormément de gens sont persuadés, David Servan-Schreiber le disait bien avant nous, que communiquer, ça ne s'apprend pas. Les gens estiment que c'est inné, qu'on communique parce que comme
si,
ça,
si,
c'est
ça,
dans
ça,
la
ça
nature,
ça s'apprend justement.
Respire. Comment ?
Oui, je dis justement, oui, ça s'apprend.
Absolument. C'est bien l'erreur. L'erreur, c'est de croire que ça ne s'apprend pas. Or, moi, je suis persuadé, et c'est pour ça que je transmets ça à longueur de semaines et de week-ends, que cela s'apprend et c'est un travail à fournir.
Et d'ailleurs, à ce sujet, justement, vous faites un stage de formation le samedi 12 février sur le thème « Cessez de saboter vos histoires d'amour dans la vie et de faire de mauvais choix ». Parce qu'en effet, on peut être son premier saboteur. C'était, je crois d'ailleurs, un de vos livres.
Mais évidemment, se saboter, c'est justement avoir une communication intrapersonnelle qui passe des messages toxiques dans nos têtes. Maintenant, depuis les neurosciences, on sait qu'on a, Brigitte, 60 000 pensées à peu près qui passent par jour dans nos têtes. Et on peut avoir une espèce de rumination mentale, de monologue intérieur complètement inconscient. Les neurosciences nous le disent, hein, 98% de ces pensées sont inconscientes, qui font du mal. Et quand on parle d'écologie relationnelle, vous qui parliez d'écologie, vous savez, les gens qui adorent, qui nous écoutent là, qui adorent jardiner, qui adorent s'occuper de leurs plantes, de leurs fleurs, ils disent avoir la main verte. Eh bien, nous, ce qu'on propose, quelque part, c'est avoir la main verte dans nos relations quotidiennes. Relations de couple, relations amoureuses, relations à l'école, relations au travail. Et c'est pas aussi simple que ça, Brigitte.
Alors, justement, c'est pas simple parce que on a tendance toujours à imaginer que ce que dit l'autre... On l'interprète et puis on imagine qu'on a raison.
Oui.
Il faudrait presque demander à une vérification de notre interprétation.
C'est-à-dire que, comme disait Claudel, parler est un besoin, écouter un talent. Tout le monde n'a pas cette qualité-là. Et surtout dans le couple, n'est-ce pas ? Où parfois, où on fait la stratégie du mur de pierre, où c'est les conflits et les scènes de ménage par excellence. Et donc, à partir de ce moment-là, comme vous le dites, on est plutôt égocentré ou centré sur ses intérêts personnels. Et on a du mal à essayer de comprendre le point de vue de l'autre. Or, l'écologie relationnelle dont vous parlez, alors que beaucoup de gens avancent comme des brise-glaces dans la vie, sans essayer de comprendre à minima, voire à maxima, à qui ils ont affaire devant eux, c'est d'essayer de comprendre, comme vous le dites, qu'est-ce que mon conjoint, ma conjointe, veut me passer comme message. Et ça, c'est pas simple, mais ça se travaille. C'est un travail.
Et puis, la deuxième chose, c'est d'arriver à repérer quand on est avec quelqu'un, finalement, qui ne nous convient pas. Combien de fois on entend des couples qui sont ensemble et puis qui, finalement, au bout de quelques années seulement, se rendent compte qu'ils n'étaient pas faits l'un pour l'autre.
Oh là là, mon Dieu. Combien je vois de stagiaires qui viennent à mes stages, qui ont fait des mauvais choix amoureux, qui évidemment se sont fait mal et se sont fait mal mutuellement. Alors moi, j'ai une propension à penser que quand on fait ces choix-là, c'est dans cette subpersonnalité que vous avez citée tout à l'heure, c'est des choix de notre saboteur. Quelque part, comme c'est à l'intérieur de notre cerveau qu'on s'est attiré, si on a attiré quelqu'un qui va nous faire du mal, bah quelque part, le sabotage, il y a un allié extrinsèque. J'espère être clair, faire d'être le plus clair possible, parce que là, on a pris quelqu'un.
Alors, je vais prendre, pour que ce soit très clair, je vais prendre une image, peut-être, justement, restons sur le jardin.
Oui.
Si on essaye de planter des palmiers alors qu'on habite en Sibérie, même si on arrose beaucoup, il y a peu
c'est
de chances qu'ils arrivent à tenir et à pousser, en fait.
C'est une magnifique image. Je prends une autre qui est un peu plus biblique, mais qui parle d'arbres aussi. Je dis, parfois, il y a des gens qui sont devant un figuier et ils attendent que des pommes tombent toute leur vie. Tu peux attendre toute ta vie devant un figuier. Il ne donnera jamais de pommes, le figuier. Et c'est une belle image. D'ailleurs, je crois même que c'est une métaphore biblique, vous voyez. Donc, non, le figuier donnera jamais de pommes. Jamais.
Oui, mais c'est déjà, enfin, je veux dire, c'est déjà le béaba. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudrait déjà savoir ce qu'on attend de l'autre.
Ah ben absolument. Qu'est-ce que l'écologie relationnelle? C'est conscientiser nos attentes relationnelles. C'est conscientiser qu'est-ce qui est important pour moi dans une relation amoureuse. Qu'est-ce que je ne veux définitivement plus dans une relation amoureuse. Qu'est-ce qui serait bon pour moi. Je dis souvent que la méthode HQR transmet des outils relationnels concrets pour faire améliorer le confort relationnel. Parce qu'il y a certainement beaucoup des auditeurs de votre émission qui vont nous appeler, ils vont nous demander, mais comment je sais si je suis en HQR ou pas en HQR dans mon couple? C'est ça qui va être intéressant de leur donner comme message, voyez. Déjà, je peux leur donner un premier signe, Brigitte. Est-ce que
Allez-y.
Vous vous sentez confortable dans votre communication à l'autre? Est-ce que vous vous sentez libre de dire ce que vous avez envie de dire au moment où vous avez envie de le dire? Si vous marchez sur des œufs, si vous dites, oh là là, qu'est-ce qui va se passer si je dis ça? Oh là là, comment va-t-il ou elle réagir si je dis ça? Vous êtes déjà pas dans un confort relationnel. Ça veut dire que peut-être la relation, vous savez que le pendant de la HQR, c'est la basse qualité relationnelle. Vous êtes peut-être dans un couple à dominante BQR. Peut-être.
Et alors, est-ce qu'on peut inverser la tendance? C'est-à-dire, on découvre tout d'un coup, par exemple, certains de nos auditeurs vont découvrir tout d'un coup qu'ils sont dans une basse qualité relationnelle. Est-ce qu'ils peuvent inverser et devenir dans une haute qualité? Et comment ils font?
Moi, je suis absolument convaincu. Sinon, je ne transmettrai pas mes outils à longueur de semaine et de week-end. Là, je reviens d'un week-end. Vous voyez, Brigitte, j'ai travaillé. Parfois, je fais des stages le samedi et le dimanche. Vous parlez du stage du samedi aussi, 12 février. Oui, les gens viennent parce qu'ils veulent s'améliorer. Ils comprennent à un moment donné. Vous savez, moi je suis persuadé que pendant un temps, beaucoup de gens sont pas capables d'avancer parce que ils sont, vous connaissez l'indice d'enseignabilité, inconsciemment incompétents en matière de HQR, en matière de communication interpersonnelle. Et c'est pas tout à fait de leur faute, Brigitte. Vous savez que j'appelle ça le savoir fondamental oublié. Est-ce qu'on fait comprendre consciemment dès l'enfance aux adultes qui maintenant sont adultes que c'est tout aussi important que lire, écrire et compter que de communiquer dans ce couple? Je prends souvent la métaphore que la communication, pour les êtres humains qui font aucun travail sur eux, c'est comme si on mettait un enfant de 8 ans au volant d'une voiture dont les pieds touchent à peine les pédales. Évidemment, il ne connaît pas le code de la route. À peine il touche les pédales et on s'étonne qu'il va avoir des accidents, qu'il va y avoir des embardés, qu'il va y avoir des problèmes. Mais c'est ça, on envoie les gens au casse-pipe dans leur vie amoureuse. C'est ça le problème.
Ben oui, bien sûr. Et ben on va essayer de leur donner le code de la route amoureux.
Oui, je suis d'accord.
Vous êtes d'accord, Christophe?
Je suis d'accord, Brigitte. Je suis d'accord.
Bon, alors vous nous appelez au 0826 300 300. Venez nous dire si vous pensez que votre relation de couple est de bonne qualité ou pas, qu'elle soit de bonne ou de mauvaise qualité. De toute façon, on vous prendra sur Sud Radio et puis on essaiera de décoder et puis de vous donner peut-être quelques conseils si vous avez envie que ça aille mieux. Dans un instant, c'est Nancy qui sera justement avec nous et qui nous parlera d'une relation qui, je crois, est terminée puisque c'était une relation à très très basse qualité relationnelle. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio 0826 300 300. N'hésitez pas à nous appeler.
14h-16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Et nous sommes aujourd'hui avec Christophe Médici, psychosociologue, et nous améliorons vos qualités relationnelles grâce à Christophe qui a donc créé cette haute qualité relationnelle. Nancy, bonjour.
Bonjour Brigitte, bonjour Christophe.
Bonjour Nancy.
Donc vous avez vécu avec un manipulateur, hein, et donc vous n'êtes plus ensemble, mais vous avez passé quelques années ensemble. Et ce qui est toujours intéressant à comprendre, je trouve, Christophe Médicis, c'est comment on peut rester, 7 ans, hein, je crois que vous êtes resté avec le...
Oui, 7 ans, tout à fait, oui.
Comment peut-on rester 7 ans avec quelqu'un avec qui on a une basse qualité relationnelle, Nancy ?
Je crois oui, que c'est pas banal et ça vient souvent parce qu'on a des mémoires, Brigitte, qui datent de l'enfance et de la famille et qui malheureusement se réveillent, j'ai envie de dire, et qui font que la personne reste. Alors est-ce qu'elle dénie ? Je sais pas, on va demander à... Est-ce qu'elle a dénié longtemps ? On peut demander à... Elle va nous raconter certainement notre auditrice.
Nancy, alors, oui, qu'est-ce que vous nous diriez ?
C'est un déni, oui. Et puis, en fait, la personne toxique en question s'engouffre dans la brèche des blessures et actionne des manipulations monstrueuses. Mmh. Voilà, j'étais sous
Mais là, vous utilisez un peu les mots de votre thérapeute, hein, Nancy.
Oui.
Racontez-nous
oui.
plutôt avec votre émotion à vous. Quand vous l'avez rencontré, vous étiez dans quel état de à l'époque ?
Alors j'étais dans un état voilà, moi je cherchais l'amour, j'étais innocente, on va dire, hein, j'étais pas du tout dans, je voyais pas les personnes toxiques, pour moi tout le monde était beau, gentil, etc. Et voilà, et puis lui était vraiment dans la séduction, dans l'attention, c'était tout beau, tout neuf, tout doux, tout compréhensif.
D'accord. Et là, voilà. Déjà, on comprend bien que vous y avez cru, vous rencontriez en quelque sorte le prince charmant.
Tout à fait, parce qu'il correspondait tout à fait à ce que je cherchais.
Bien sûr,
vraiment.
Bien sûr.
Ouais.
Et au bout d'un quelques mois, j'imagine.
Au bout de quelques mois, quand on s'est installé
ensemble. Ouais.
Voilà.
Quand vous vous êtes à partir du moment où vous vous installez ensemble, hein, c'est souvent ce que j'entends d'ailleurs. Hein.
C'est ça.
Et là, donc, le piège se referme.
Voilà, exactement.
Et donc Nancy, Brigitte, si je peux me permettre, vous vous sentiez inconfortable très vite dans cette relation, dans la communication avec ce manipulateur ?
Oui, parce que c'était des contradictions sans arrêt. Oui, mais tu fais ça, mais non, mais tu fais pas bien ça. Finalement, c'est bien. Et puis, enfin, c'est toujours des contradictions, des chauds, des froids. T'es belle, mais aujourd'hui, t'es pas bien aujourd'hui. Pourquoi t'as mis ça ? Pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu utilises ton argent comme ça ? Pourquoi ? Voilà, c'est toujours des rabaissements, quoi. C'est, voilà. Je suis tombée dans une espèce de roue infernale où on ne sait plus, parce que du coup, vu que tout ce qu'on pense, ce n'est pas bien, ce n'est pas comme ça qu'il faut penser, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire, on tombe dans une espèce d'épuisement, en fait. J'étais, au bout de ces 7 années, j'étais vidée complètement, physiquement et intellectuellement.
Oui, oui.
J'avais plus rien, je ne pouvais plus ni bouger, ni penser, c'était un état terrible, quoi. Parce qu'on dit on touche le fond, mais moi j'ai raclé le fond pendant plusieurs mois. Ouais, c'est tout à fait ça. J'ai raclé le fond. Et puis, tout doucement, à l'aide d'un thérapeute, hein, de mon psychologue Jean-Jacques, que je salue, on a commencé à travailler, mais j'arrivais pas, je comprenais pas pourquoi. On s'est séparés à un moment, et puis tout d'un coup, il est revenu en état, oh, je t'aime, t'es belle, t'es la plus belle, t'es la plus intelligente, etc. Je m'excuse pour tout ce que je t'ai fait. Il est revenu. Et puis ça a duré un mois et demi, et puis tout d'un coup, bon, maintenant tu vas bien, alors maintenant tu vas faire ci, tu vas faire ça, tu vas faire ceci, on va faire cela, tu m'obéis. Ça, c'était son mot, tu vas obéir. Voilà. Et j'étais en arrêt de travail, je suis en arrêt de travail depuis plus d'un an maintenant.
Ouais. Mais au début, quand il a commencé à vous humilier, à vous rabaisser, qu'est-ce que vous avez pensé ?
Je pensais, bon, ok, j'ai peut-être fait une petite erreur là, je l'ai vexé, donc je vais tout faire.
Parce que Nancy, surtout ne pensez pas qu'on est en train d'essayer de vous juger. Hein. Je sais à quel point ils sont malins, ces pervers narcissiques, et à quel point ils savent faire le chaud et le froid et vous faire perdre pied. Ce qui est important, en revanche, c'est la manière dont vous allez pouvoir témoigner, qui va peut-être aider des personnes qui sont justement actuellement dans des situations comme vous étiez, hein, des situations où, en effet, tout doucement, on s'en rend pas compte au début qu'on va perdre pied, hein, j'imagine. Donc au début,
ah non, pas du tout.
Au début, au fond, vous n'aviez pas suffisamment confiance dans votre manière de voir les choses. Donc s'il vous disait que vous aviez fait une erreur, peut-être qu'il avait raison, c'est ça.
Oui, c'est
donc
ça.
Vous manquiez. Donc on pourrait dire peut-être, Christophe Médici, que Nancy manquait d'estime d'elle-même et de haute qualité de relationnel avec elle-même.
Alors exactement, Brigitte, j'y pensais au moment où vous le disiez, c'est-à-dire que souvent, quand on tombe sur un manipulateur et un pervers, peu importe, en tout cas une personne à dominante basse qualité relationnelle, elle va, et elle le disait dès le début de son témoignage passionnant, Nancy, il va lui envoyer des messages toxiques. Dans la méthode haute qualité relationnelle, je les appelle des toxicoms. Et on a bien entendu, hein, Brigitte, qu'elle dit qu'il lui disait « t'es nul, tu fais ça mal, tu fais ça mal ». Il la sape. Déjà qu'elle ne devait pas forcément avoir une haute estime de soi. Mais enfin, là, il continuait à lui faire descendre à la cave son estime de soi. Parce qu'à recevoir des toxicoms toute la journée comme ça dans son couple, eh bien après, on se dit « mais qu'est-ce que je vaux ?» Je suis une merde, excusez-moi d'être trivial, Brigitte. Hein. Je vaux rien, j'ai aucune valeur. Parce qu'en plus, la personne que j'aime, elle me fait mal. Mais moi, j'ai envie de lui poser une question, Nancy. Est-ce qu'il y avait un parent qui était comme ça? Est-ce que vous avez des mémoires qui faisaient réactiver ça?
Alors, ma grand-mère était comme ça, parce qu'on vivait avec mes parents, mes grands-parents. Ma grand-mère était très, très directive, très...
Voilà.
Et oui. J'ai vécu ça toute mon enfance, quoi, en fait.
Et vous n'étiez pas protégée par vos parents?
Non, parce que tout le monde obéissait gentiment.
D'accord. Donc, vous aviez comme modèle que, de toute façon, il y a toujours une hiérarchie supérieure à laquelle il faut obéir.
C'est ça. Quand quelqu'un a un fort caractère, il faut lui obéir parce qu'il a raison, forcément.
Pour éviter le conflit. Enfin, pour éviter le conflit, ça, j'imagine.
Avec beaucoup de non-dits.
Ouais. Sauf que quand on dit oui systématiquement à l'autre, on se dit non à soi-même.
Ah oui, exactement.
Je les appelle les rois et les reines des faux oui, Brigitte. C'est quand on doit dire non à l'autre, mais qu'on lui dit oui, alors que c'est non qu'on a besoin de dire. C'est les rois et les reines des faux oui. Et attention, Brigitte a raison, Nancy. Quand on dit oui à quelqu'un, alors que c'est non qu'on désire et qu'on a besoin de lui dire, c'est à soi qu'on dit non et votre estime de vous chute encore plus. Parce que dans dans le monologue intérieur, vous allez dire, mais quel abruti j'ai encore été de lui dire oui. Vous voyez ce que je veux dire? Donc arrêtez les faux oui. Arrêtez, c'est pas HQR, vraiment pas.
Et alors, ce qui est terrible, Nancy, vous voyez, c'est que à force d'accepter, de lui dire oui, de céder, de ne pas réagir, de ne pas, vous perdiez encore plus votre estime de vous-même, qui déjà était certainement un petit peu faible au départ de la relation. Et donc, forcément, vous vous retrouvez, comme vous l'avez dit très justement, complètement par terre.
Heureusement, vous êtes complètement vidé, et on n'a même plus le droit de penser par soi-même. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est plus la moindre pensée n'est plus valable aux yeux de l'autre.
Mais absolument, parce que quand on n'a plus de repères, c'est-à-dire que quand c'est pas, vous voyez, quand c'est pour la même phrase, parfois c'est oui, parfois c'est non, parfois c'est un, on n'a plus aucun repère, donc. On ne peut plus penser, puisque de toute façon, on n'a plus aucun repère. C'est d'ailleurs ce que je dis toujours, élever des enfants en les traitant parfois bien pour une chose et mal pour la même chose, c'est les rendre totalement incapables d'avoir une bonne estime d'eux-mêmes et puis d'arriver à se positionner. C'est terrible, c'est ce qu'il y a de plus terrible. Et donc, vous avez connu ce qu'il y a de plus terrible. Heureusement, visiblement, vous étiez en thérapie.
Alors, j'étais en thérapie, mais ça ne me suffisait pas. J'avais besoin de me reconstruire vraiment par des... Je cherchais des outils, quelque chose qui me pousse un peu plus, quoi. Et je regardais le programme du Salon du Bien-être à Agen. Et dans le programme, donc, j'ai vu comme conférencier vedette Christophe Médici. Donc, je me suis renseignée un petit peu. Et puis, j'ai dit, bon, je vais aller à ses conférences, puisqu'il en a fait deux. Et puis là, je l'ai écouté et j'ai dit, mais pouf, voilà, c'est ça qu'il faut que je fasse, quoi.
Et donc, c'est Christophe qui vous a sauvé.
C'est Christophe qui m'a... C'est mon sauveur.
On va pas aller jusque-là, Brigitte, mais maintenant, je me rappelle de vous. Non, si vous avez fait un stage à la HQR, à la haute qualité relationnelle. Et effectivement, on peut jamais mieux parler de la haute qualité relationnelle, parce que moi, quand j'en parle, c'est pro domo. Hein. Voilà, évidemment, je vais pas dire que c'est nul, cette méthode, mais c'est vrai que ça me touche tellement. J'ai tellement de gratitude quand vous me dites que les outils relationnels, les challenges que vous faites, vous les utilisez au quotidien, que ça vous sort, comme dit Brigitte, sauver. Mais c'est vrai que c'est concret, Brigitte. C'est des outils relationnels à pratiquer du matin au soir, vraiment.
Oui. On peut les utiliser, on s'en sert tous les jours en fait. En plus, on est un groupe, on est plusieurs donc à suivre cette formation. Et c'est vraiment, il y a une cohésion de groupe. On a un groupe WhatsApp sur lequel on se parle tous les jours. Si un baisse les bras, il y a les autres pour le conforter, réconforter. C'est vraiment formidable. On les suivit. On ne fait pas seulement le stage et puis on nous lâche dans la nature, débrouillez-vous avec mes outils, etc. Non, pas du tout. Il y a un suivi. Et Christophe est là tous les jours. C'est vraiment très, très bien suivi. Et ça donne un élan formidable, quoi. En fait, moi, ça m'a sorti vraiment de mes idées noires.
Merci, Nancy.
Merci à toi, Christophe.
Merci beaucoup. Vraiment,
j'ai retrouvé mon estime de moi. Je travaille beaucoup sur la confiance en moi. Hein, mais, bon, j'ai encore du boulot, en sortant de la HQR2, on a encore d'autres outils.
Et alors, est-ce que vous pourriez concrètement nous donner un outil qui particulièrement vous aide, que vous aura donné Christophe Médici, Nancy ?
Je crois que le meilleur outil, c'est la cohésion de groupe. Voilà. Cette espèce de formidable...
Ouais, mais Brigitte vous pose une question, Nancy, sur tous les outils relationnels, tous les challenges que je vous donne, tous les challenges.
Oui, on apprend à communiquer et en même temps à repérer les personnes toxiques. Donc, on a des petits... on a fait des ateliers de mise en situation, des tests, des choses comme ça pour apprendre à repérer ces personnes. Et du coup... tous les jours, on s'en sert. Enfin, on
repère. Mais est-ce que vous pourriez nous donner concrètement juste un petit outil, Nancy ?
Brigitte, elle veut savoir.
Non, mais
c'est pour les auditeurs, oui.
C'est pour les auditeurs, parce que là, on reste quand même dans des choses qui sont très vagues.
Alors que c'est très
si
concret.
Si vous nous donnez un petit concret. Outil très ouais. concret, Nancy,
ouais,
qu'est-ce qui vous vient à l'esprit ?
Un outil, l'outil tout simplement de repérage de ces personnes.
Et bien justement, qu'est-ce qui vous permet de les repérer ?
Par exemple, vous pouvez expliquer comment on travaille sur les profils de communicants, Nancy ? Sur les différents profils de communicants ?
Oui, alors allez-y. On apprend sous forme de couleurs, on va dire, à repérer quels sont les caractères principaux des personnes qu'on croise, qu'on rencontre, ou avec qui on travaille aussi. Et donc, par rapport à ces couleurs qui sont le jaune, le vert, le rouge, le bleu, qui sont bien spécifiques.
Et alors, justement, comment on repère la couleur de la personne ? Mais j'essaye d'être concrète, mais je n'y arrive pas.
Vous avez un challenge à la fin du stage, n'est-ce pas, Nancy ? Avec des rituels et des outils très concrets, notamment de la basse qualité relationnelle. Allez-y, vous pouvez y aller, dites des choses, c'est pas grave, allez-y. Qu'est-ce que vous faites pendant votre challenge, par exemple ?
Pendant nos challenges, il y a tout un... il faut... d'abord, il y a surtout un bel outil, une belle... qu'on apprend...
C'est je crois que Nancy, elle est face au maître, et donc là, elle perd complètement ses moyens, et on n'arrivera pas à ce qu'elle nous donne des choses.
Je crois que c'est peut-être aussi sa première radio, Brigitte, elle est
formidable. Oui, mais j'entends bien que Nancy perd confiance en elle, et ce serait dommage, parce que vous seriez en train de reculer. Donc, on ne va pas vous embêter plus, Nancy. Merci en tout cas de votre témoignage.
Merci beaucoup, Nancy.
Et puis, je suis ravie de faire cette émission sur la haute qualité relationnelle, puisque visiblement, elle a aidé notamment Nancy à peut-être sortir des griffes d'un manipulateur. On va faire une petite pause et on va retrouver notre sexy news Flore Chéri qui est avec nous et qui va nous parler de cuisine et de sodomie. Je ne sais pas quel est le rapport, quoique si ça rentre et ça sort, hein. Ça doit être ça. Allez, on se retrouve dans un instant.
Brigitte Lahaye Sud Radio, c'est l'instant sexy news.
Bien, Christophe Médici, nous retrouvons Flore Chéri. Je rappelle que Flore est l'auteur de ce roman Matriarchie, qui est sorti aux éditions de La Musardine, dans lequel elle nous montre ce que pourrait être le monde de demain si c'était les femmes qui gouvernaient. Enfin, je simplifie un petit peu, mais c'est quand même à peu près ça l'idée du roman. En tout cas, pour l'instant, on va parler cuisine, Flore Chéri.
Oui, c'est ça. Je voulais savoir si vous aviez bien déjeuné.
Ça va, oui, enfin pas tant que ça, parce que vu qu'on prend l'antenne à 14h, vous voyez, on déjeune léger.
C'est déjeuner rapide. Et vous déjeunez léger, et bien c'est une très bonne chose de déjeuner léger, parce que j'imagine que tous les auditeurs actuellement sont en période de digestion, et c'est cette période de digestion qui intéresse le chef cuisinier américain homosexuel Alex Hall, qui au-delà de se passionner pour le monde culinaire, se passionne surtout pour le cul. Il est connu sur les réseaux sociaux sous le nom de The Bottoms Digest, soit en français la digestion du derrière. Et à travers sa chaîne YouTube ou son compte TikTok, il met directement les pieds dans le plat, et pas que les pieds. Il donne tous ses conseils pour préparer dès le petit déjeuner la sodomie qui arrivera le soir même. Alors, de façon générale, il s'agit surtout de recettes riches en fibres pour faciliter le transit intestinal. Il conseille des recettes légères, privilégie le poulet ou le poisson à la viande rouge, les pommes de terre revenues plutôt que les frites, trouve des alternatives aux produits laitiers, hein, parce qu'on sait que le lactose, ça peut être un peu compliqué. Il déconseille également tous les légumes qui donnent des gaz, comme les brocolis ou les choux-fleurs. Alors évidemment, ça prête à rire, hein, c'est pour ça que ça fonctionne. Pour Alex Hall, au-delà de sensibiliser à une cuisine saine et équilibrée, c'est aussi un moyen de tabouiser le sexe anal, que ce soit pour les gays ou pour les hétéros, et de faire un petit peu de prévention au passage, entre la poire et le dessert. Alors, évidemment, si on parle de sodomie, il serait plus judicieux de parler de poire de lavement anal, de gel lubrifiant adapté, des différents types de plugs, de techniques pour réaliser un bon massage prostatique. Mais la censure sur les réseaux sociaux est si forte que parler d'alimentation et de recettes de cookies, c'est presque la seule fenêtre de tir qui reste à disposition pour glisser quelques messages de prévention adaptés. Au-delà du militantisme, Alex Hall a une vraie créativité et beaucoup d'humour. Je vous conseille de découvrir sa recette de cookies spéciales pour les passifs ou de pâtes sauce coït friendly, que vous pouvez déguster évidemment sans modération. Un beau moyen d'appliquer à la lettre les recommandations manger-bouger préconisées par la santé publique. Vous pouvez d'ailleurs vous inscrire à sa newsletter pour ne pas rater une miette de ses bons conseils. Alors, je ne sais pas si grâce à sa nouvelle notoriété, Alex Hall réussira à mettre du beurre dans les épinards. En tout cas, c'est tout ce qu'on lui souhaite.
Bon, bah, finalement, manger 5 fruits et légumes par jour, c'est plutôt bien pour la sodomie, alors, si j'ai bien compris.
C'est plutôt bien, ça met des fibres et ça permet d'avoir un meilleur transit. Et c'est pas trop lourd pour la digestion.
Il faut quand même éviter les choux, si j'ai bien compris. Bon, voilà, alors, c'est plutôt drôle, humoristique, mais en même temps, c'est certainement très juste. Non, Christophe Midi,
bah, certainement, puisque Flore le dit, de toute façon, elle parle d'or, n'est-ce pas ? Elle sait de quoi elle parle, peut-être aussi, et puis elle est très experte, donc moi, ça me fait beaucoup rire. D'autant plus qu'on sait très bien qu'il y avait 3 choses qui sont antidépressives. De toute façon, les remèdes de grand-mère, c'est rire, écouter de la musique et faire l'amour. Donc manger, ça doit aller aussi avec rire, faire l'amour, c'est important pour le bien-être, n'est-ce pas, Flore ? C'est ça, en fait.
Oui, puis de façon plus générale, je pense que pour être bien dans sa peau, bien manger, bien s'alimenter, trouver des aliments qui nous font du bien, mais même prendre le temps de cuisiner, ça permet de mieux se sentir dans son corps et c'est la première étape pour avoir de la libido, de l'appétit sexuel et envie de faire l'amour derrière. Donc oui, tout va.
Moi, j'ai toujours trouvé idiot d'ailleurs d'aller au resto, par exemple, et de faire l'amour après. Moi, je trouve que c'est beaucoup mieux de faire l'amour de 5 à 7 et d'aller au restaurant après. Non, vous trouvez pas, Flore, Christophe ?
Mais c'est vrai que ça crée de l'appétit.
non, mais
c'est vrai, après, on a...
Il y en a même qui font l'amour au resto, Brigitte.
Oui, c'est ça, notre c'est manière de faire. C'est certains restos, mais c'est quand même relativement limité. Hein, les restos où on peut faire l'amour. Mais ça existe, des clubs libertins qui font restaurants, c'est vrai.
Oui, c'est vrai.
Ça existe. Bon, en tout cas, merci pour cette touche d'humour sodomite, Flore Chérier. Et puis, ben, on peut vous retrouver, bien sûr, dans Matriarchie aux éditions de La Musardine ou sur votre site où vous réalisez les fantasmes de ceux qui y vont, mysuitefantasy.com. Julie est avec nous maintenant pour 3 questions intimes. Bonjour, Julie.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors Julie, évidemment, vous n'échappez pas à la fameuse question en lien avec ce qui vient d'être dit, notamment la sodomie. Est-ce que vous aimez ou pas la sodomie ?
Ce n'est pas quelque chose que je connais.
Bon, donc vous ne savez pas si vous aimez,
voilà,
mais a priori, ça ne vous tente pas trop.
Chacun fait ce qu'il veut.
Mais absolument. Mais pour l'instant, c'est pas trop vous n'avez pas spécialement envie, sinon ce serait déjà fait, j'imagine.
Oui.
D'accord. Bon, deuxième question. Est-ce que vous avez plutôt eu 1 ou 100 partenaires ?
Bah plutôt 1, alors.
Ah bah oui, si vous en avez eu moins de 50, c'est plutôt 1.
Ah bah oui, bah tout oui. De suite, oui, exactement.
Et oui. Bon, bah très bien, écoutez, pourquoi pas. Hein. Et puis, dernière question. Qu'est-ce que vous regardez en premier chez un homme?
C'est l'allure, c'est ce qui va se dégager en fait. Le langage non verbal, son attitude. Il y a un mélange de tout en fait qu'on peut voir en quelques secondes sur sa manière d'être.
D'accord, donc vous avez un œil panoramique, vous regardez en comment il se tient, comment il se bouge.
Voilà. Ouais. L'expression, ouais.
Et alors, il faut quoi? Il faut qu'il ait l'air élégant, viril, drôle.
Authentique, je dirais, qu'il n'y ait pas de simagré, qu'il n'y ait pas de... L'authenticité, qu'il s'exprime librement quand il a envie de rigoler, qu'il ne soit pas quelqu'un qui joue un rôle à
naturel,
être en
donc.
Façade. Mmh. Voilà, exactement, quelqu'un de naturel et qui ne soit pas
est-ce
non plus dans
Est-ce que c'est si simple que ça, justement, à décoder quelqu'un qui serait naturel? C'est pas si simple, justement.
Non, c'est pas si simple, on est bien d'accord. Mais bon, après, je travaille avec beaucoup de personnes, je suis éducatrice de rue et je rencontre beaucoup de gens.
Oui. Donc
évidemment,
vous avez un peu d'expérience.
Après,
oui.
Voilà, je me trompe parfois, mais sur le, on va dire, le profil d'une personne, mais quand même, j'arrive à observer.
D'accord. Bien. Eh bien, c'est à votre tour, vous pouvez poser une question à Christophe Médici, il vous écoute, allez-y.
Je voulais savoir, quand on a, parce que c'est quelque chose qui revient dans mon quotidien professionnel et aussi personnel par moment, quand on a un partenaire avec un tic, on va dire, un éternuement qui revient régulièrement, là j'ai une amie qui ne supporte plus justement l'éternuement de son mari parce qu'il est malade depuis quelques semaines, ça devient mais irritable au possible, même si toute la relation va bien. Dans son ensemble, comment on peut faire pour gérer cette irritabilité?
Alors, c'est une très bonne question, Julie. La première chose, c'est savoir si vraiment la pauvre personne y est pour rien. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui,
deuxièmement,
exactement.
Si la personne que ça énerve et qui est en colère, dans la conjointe, là en l'occurrence, lui en a parlé. Il faut faire attention à la façon dont on lui parle,
exact.
Julie,
mmh.
dont on lui dit la chose. Hein, quand on parle de haute qualité relationnelle, c'est exactement l'inverse de réactionnel. On s'entend? Ça, c'est du Jacques Salomé dans le texte, mais entre lui disant « Ah, oh, mais j'en ai marre que t'éternues !» Vous comprenez? Ça, c'est réactionnel. Et la personne risque de mal le prendre, vous voyez? Par contre, lui dire « Écoute, je suis mal à l'aise, là, ça commence à me fatiguer, ça me tape sur le système nerveux. » Par contre, si la personne n'y est pour rien, Julie, vous imaginez? Là, si elle... j'ai envie de dire, c'est ça que j'essaie de vous dire, il y a éthique. Vous voyez, il y a problème communicationnel et problème communicationnel. Si là, la personne est malade, c'est terrible pour elle. Par contre, si c'est quelque chose de récurrent, et on sait que c'est une des causes des conflits, Julien, les couples s'engueulent quasiment toujours pour les mêmes petites peccadilles du début à la fin. C'est quand même juste hallucinant, mais c'est la vérité, ça a été étudié par tous les thérapeutes de couple. Et bien là, il est important de savoir gérer ça, et ce tic-là, d'en discuter, de le mettre sur la table et d'en parler d'une manière HQR, Julie. D'une manière HQR, vraiment.
Okay, ouais.
Mais moi j'ajouterais quand même, Julie, que lorsqu'on commence à être agacé par un tic de quelqu'un, même si c'est récent, parce que là visiblement cette personne a l'air d'être malade d'après ce que vous nous dites, ça peut quand même être révélateur de quelque chose qui dans le couple n'allait plus si bien que ça.
Bien sûr, un symptôme.
Donc, c'est un symptôme, absolument. Maintenant, c'est à elle de d'analyser ça, hein, bien sûr. Mais c'est quand même... bon, parce que si c'est parce qu'il est malade, a priori, si la relation va bien, on a plutôt de l'empathie et on n'est pas agacé par ça. Vous voyez?
Oui. Enfin, quand
ou alors, c'est
dur,
parce que ça...
Il y a des enfants à gérer, qu'on est épuisé. C'est vrai que l'irritabilité peut arriver quand même au bout d'un moment. Et...
C'est possible, bien sûr.
Et l'empathie,
bien sûr.
C'est vrai que des fois, on n'y est pas toujours connecté.
Mais Julie, l'irritabilité, c'est une des premières clés de la méthode haute qualité relationnelle que je mets dans la basse qualité relationnelle, par contre. Hein. Quand dit Brigitte, si l'irritabilité est à répétition, ça veut bien dire que la personne vous insupporte. À un moment donné, ça veut dire que là, il y a une vraie question à se poser sur où en est, j'ai envie de dire, la qualité du couple. On est d'accord?
Absolument.
Oui, Brigitte a raison. Mais là, ce que je voulais pointer du doigt, et d'ailleurs j'ai bien aimé, Brigitte, ce qu'a dit Julie au début de la communication, quand elle parle d'une communication authentique. Parce qu'on est en train de parler de la haute qualité relationnelle, je dis à nos auditeurs que depuis le début que c'est une méthode de communication inter- et intrapersonnelle, mais la vérité, Brigitte, on le sait, c'est que la communication pour le grand public, c'est un mot fourre-tout. On met tout et on confond la com, c'est-à-dire la com qui est la com des communicants
parler
politiques.
Parler du dernier truc qui s'est passé à la télé.
Voilà, ou de la com de crise lorsqu'il y a un problème dans une entreprise, ou de la com, du marketing, de l'épubard, c'est pas de cette com-là dont on parle, nous. Ceci dit, en France, avec ces dimensions très intellectuelles qu'a la France, Brigitte, il y a deux choses qui font que les gens ont un problème avec la communication. Soit, dit, lui, c'est un communicant, c'est pris presque comme une insulte. Oh oui, c'est un bobard, c'est un bonimenteur. Quel communicant ? C'est-à-dire qu'on va penser tout de suite politicien ou conseiller en com des entreprises. Et là, bravo Julie, nous, dans la communication haute qualité relationnelle, on est en train d'apprendre la communication authentique, justement, la communication interpersonnelle. Elle est destinée à quelque chose de vrai, d'authentique. C'est pas celle qui est liée au paraître.
Oui, et là, si vraiment elle est irritée parce qu'elle en peut plus, ça veut dire qu'elle a besoin d'un peu d'espace ou en tout cas prendre un peu d'oxygène et s'éloigner un petit peu pour se retrouver elle-même. Parce que finalement, qu'est-ce qui se passe ? Elle est envahie par quelque chose qui l'irrite et qui va aller de pire en pire.
Faut qu'elle évalue dans quel état est la relation, le climat relationnel. Vous savez, Julie, dans la méthode, je parle du climat. À un moment donné, le climat, il n'est pas toujours soleil et ciel bleu. Vous sentez ce que
non,
je veux dire ?
Bah non, bien sûr.
Eh bien oui. Et comme dit Brigitte, dans ce cas-là, bah, l'irritabilité, elle vient vite. Hein. Ce qui est intéressant, parce que je ne voudrais pas qu'on soit manichéen, hein, Brigitte, il ne faut pas penser qu'il y a des couples à 100% HQR et des couples à 100% BQR.
Ça,
non,
c'est
nous
clair.
Sommes toutes et tous des oscillateurs. On oscille toutes et tous dans nos vies amoureuses entre de la BQR et de la HQR. On est un peu fatigué un jour, on peut être BQR. Moi, le premier, on est d'accord ? Bon, j'aurais bien aimé que Nancy ne perde pas tous ses moyens, parce que je transmets tellement d'outils relationnels pendant les stages de deux jours qu'elle n'a pas été capable, Brigitte, de vous sortir. Vous l'avez impressionnée, Brigitte, là, c'est tout. Mais les outils relationnels sont juste faits pour avoir une trousse à outils. Vous voyez ce que je veux dire, Julie ? Une trousse à outils à utiliser tous les jours.
Hop, écoutez, Christophe, on fait une petite pause et puis juste après la pause, vous nous donnerez un outil très concret de votre haute qualité relationnelle, puisque Nancy n'a pas été, la pauvre, apte à nous le donner. Mais je pense qu'en effet, elle perdait un petit peu confiance et c'était mieux de la laisser tranquille. Allez, on fait une petite pause et on se retrouve avec vous, bien sûr, 0826 300 300. Venez nous parler de votre qualité relationnelle, qu'elle soit haute ou basse.
14h-16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Et nous évoquons aujourd'hui la haute qualité relationnelle avec Christophe Médici, le créateur de cette formule. Vous pouvez d'ailleurs retrouver toutes les infos, tous les stages sur le site hautequaliterelationnelle.fr. Et comme ça, vous pourrez notamment vous inscrire pour le stage qui aura lieu le samedi 12 février. La qualité relationnelle, un petit outil pratique.
Outil pratique qui est lié à la gestion des conflits, Brigitte. Parce qu'on a bien vu, même déjà les premiers auditeurs, ils nous parlent bien que dans le conflit, souvent il y a des couples, soyons honnêtes, qui sont dominants, dominés. Il y en a un qui prend le pouvoir sur l'autre, c'est des couples verticaux. Et j'ai le deuxième trousseau, qui est le trousseau force. Je leur donne un outil relationnel pour travailler la fermeté, Brigitte. Dans force, le F, la première clé du trousseau force, c'est la fermeté. Or, généralement, on a des techniques en programmation neurogestuelle et en parole pour pouvoir, avec fermeté, dire que quelque chose ne nous convient pas. Alors, on part dans un jeu de rôle, on dit ce qu'on observe, très simplement, pas avec agressivité, avec assertivité. Je leur apprends, en gestion des conflits, l'assertivité. L'assertivité dans le non-verbal, ça s'apprend. La programmation neurogestuelle, par exemple, je leur apprends des gestes, voyez, de fermeté, Brigitte. Des gestes ou des postures. La personne qui a une basse estime de soi, elle ne sait pas se positionner, rien que dans son non-verbal, pas en fermeté. On sait que c'est 55% du message passé vis-à-vis de l'autre. Et donc, je leur apprends aussi à s'exprimer, à dire, écoute, j'observe que ça ne me va pas. Moi, mon besoin, c'est ça. Je décide ça ou je te pose cette demande-là. Voilà, le trousseau fort, c'est des outils concrets en jeu de rôle à apprendre et à pratiquer.
Vous avez raison, quand on observe les animaux, on voit bien quel est le dominant. On n'a pas besoin qu'il parle. Hein. C'est tout de suite évident, celui qui domine celui qui est plutôt soumis.
Est-ce que l'être humain est aussi un animal, Brigitte ? Il est aussi un peu un animal.
On a une part animale.
On a une part animale.
Bien sûr.
C'est terrible que de voir dans certains couples, quand l'un a pris, comme disait Cousseau Molière, empire sur l'autre, la dimension est verticale et il faut vraiment, il y a une phrase très belle qu'on connaît hein, du sage grec qui dit « tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime ». Si vous ne le dites pas dans votre couple, vous allez faire des maladies, les amis. Hein, Michel Odoul, votre chroniqueur fabuleux, le dit très souvent. Si on n'exprime pas les choses...
C'est
dans
pas
le couple,
un chroniqueur, c'est un invité comme vous, Christophe.
Ah voilà, le grand expert, voilà.
Ne le...
Mais est-ce que j'adore ce qu'il écrit, donc...
Pas...
Et c'est vrai que c'est lié. C'est-à-dire que dans le couple, pourquoi de gens tombent-ils autant malades et aussi souvent malades? Parce qu'ils acceptent, ils subissent la dominante ou les dominants, parce que pas de sexisme. Hein. Oui, parfois, c'est la femme qui est dominante.
Vous avez raison. On se recroqueville et c'est le corps qui trinque. Et
exactement.
C'est le corps qui souffre.
Et le corps va
c'est
dire.
C'est d'ailleurs souvent le corps qui finit par craquer quand on est avec un manipulateur très pervers. Et c'est là où on se rend compte qu'il faut faire quelque chose.
Donc
bref,
voilà, le trou
parle,
sur force.
On parle de la haute qualité relationnelle dans le couple, mais malheureusement, ça peut également être un problème avec ses enfants. C'est le cas de Lila qui va nous raconter ce qu'elle est en train de vivre. Bonjour Lila.
Oui, bonjour Brigitte, bonjour Christophe.
Bonjour Lila.
Oui, effectivement, je vis ça avec mon fils unique, n'est-ce pas, qui m'a tourné le dos l'année dernière, effectivement. Avec
Alors,
une
qu'est-ce
compagne.
Qui s'est passé? Il a rencontré une autre femme?
Il a rencontré une autre femme, voilà, qui au demeurant, quand il me l'a présentée, parce que j'étais la première à qui il est venu la présenter, parce que sa maman, Benjamin, ça a toujours été sa maman, voilà, et donc il est venu me la présenter, au demeurant, moi j'ai ouvert les bras, mais voilà, et mon fils quitte la maman de ses enfants, c'est son histoire, j'y peux rien, et je n'ai absolument pas à juger quoi que ce soit, quoi. Voilà, donc au demeurant, elle a été, elle m'a accueilli elle aussi les bras ouverts, et puis chemin faisant, et bien, vous savez, les personnalités se révèlent. Ensuite, ils ont loué une grande maison où mon fils m'a dit « Maman, mais viens près de nous, tu seras bien. » Voilà, alors j'ai un petit peu hésité, vraiment. Et puis, j'étais encore dans certaines peurs, donc je me suis rapprochée effectivement d'eux. Et en fait, il s'est avéré qu'il devait m'aménager vraiment quelque chose avec une salle de bain et tout, et ce n'était pas possible. Elle m'a dit « Ah, mais si tu veux l'eau chaude, il faut que ça va te coûter 5000 euros. » Bon, déjà, j'ai l'impression que ça m'a un peu refroidi. Et je lui ai dit « Non,
c'est le cas de le dire. »
Ouais, c'est ça, c'est le cas de le dire. Pas chez moi, je vais pas... voilà, j'ai dit « Non, on est hors de question. » Alors mon fils me dit « Ah, mais t'inquiète pas, maman. » c'est pas grave, tu passes. Donc, il fallait que je passe par son bureau, à elle, puisque c'est architecte, par son bureau, que je traverse la maison, que je monte à l'étage. Alors, chaque chambre avait une salle de bain, donc j'avais élu domicile des affaires de toilette dans la chambre de ma petite fille. Sauf que moi, je suis une élève tôt, que j'arrive, qui n'est pas du tout le leur.
Et aujourd'hui,
aujourd'hui, j'ai repris mon indépendance. Ah oui, quand j'ai senti, au bout de quatre mois, j'ai senti.
Donc, elle a visiblement tout fait pour que vous ayez envie de repartir. Hein.
Elle a tout fait, elle a construit quelque chose. Voilà. Et mon fils,
mais Lila, est-ce qu'elle a tendance à faire le vide autour de votre fils?
Il n'y a pas
que vous qu'elle évince, en quelque
sorte. Non, il n'y a pas que moi qu'elle évince. Et puis, dans son comportement, parce que je suis restée, je suis proche pour voir mes petits-enfants, parce que du coup, mon fils m'empêche de voir mes petits-enfants aussi, avec qui j'avais
Votre fils prend parti pour elle?
Oui. Il m'a carrément dit quand j'étais en train de déménager, j'avais préparé des cartons en bas à la grange qu'elle avait remonté à l'étage. Quand je suis arrivée le dimanche pour déménager, elle était là et quand j'ai vu que mes cartons n'étaient plus là, j'ai dit mais qu'est-ce que t'as touché mes cartons? Elle me dit ah c'est moi, excuse-moi, mais je voulais t'aider et tout. Et là je l'ai regardée, j'ai dit mais Olivia, je pense que je ne t'ai rien demandé, donc je te demande de me laisser tranquille. Aujourd'hui, je ne veux pas, et quand bien même si tu avais voulu m'aider, tu m'aurais appelé, je pense, et tu m'aurais demandé gentiment ce que tu pouvais faire pour me rendre service.
Et elle est avec votre fils depuis combien de temps?
Oh, ça fait... c'est le grand amour encore, c'est le début.
Ça j'ai bien compris.
Ça fera 2 ans. Ça va faire deux ans déjà.
Deux ans déjà.
Et
votre fils est toujours très amoureux et ça se passe très bien entre eux.
Oui. Mon fils a découvert, je connais très bien. Alors, comment dire, j'ai un grand, très très grand ressenti et j'ai une histoire personnelle qui m'a amené à sentir. Puis non, puis ça fait partie de mon aura, je sens très très bien les choses. Donc, mon fils, je le connais bien. Il a découvert des choses avec ceci. Elle est très femelle. Ceci dit, c'est très très bien. Donc, il a découvert des choses qu'il n'a jamais osé faire avec la maman de ses enfants. Et ça lui a complètement tourné la tête.
Il y a une forte sexualité visiblement entre eux. Alors Lila, encore une fois, on va essayer d'interpréter en fonction de ce que vous nous dites, ce qui est toujours un petit peu périlleux, parce que ce serait plutôt la version de votre fils qui serait intéressante à entendre, ou la version peut-être même de Olivia. Mais on va essayer d'interpréter. Après les infos, on va vous répondre. Et puis, vous me donnerez aussi la réponse à ma devinette, Christophe Médici. Oui, pourquoi est-ce si important de se parler à soi-même ?
D'accord.
Tout ça après les infos.
14h-16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Christophe Médici est avec nous. Nous évoquons la haute qualité relationnelle. Vous pouvez retrouver toutes ces infos sur le site hautequalitérelationnelle.fr. Avant de reprendre Lila et de faire un petit compte-rendu, si je puis dire, de sa situation, je voudrais d'abord la réponse à ma devinette. Pourquoi est-ce si important de se parler à soi-même, Christophe Médici ?
Pour s'aimer de mieux en mieux chaque jour.
Non, c'est tout simplement parce qu'au moins on est sûr qu'il y a quelqu'un qui nous écoute.
Oui, alors parfois, si on est bécure avec soi-même, on s'écoute même mal.
C'est pas faux, vous avez raison. Mais c'est vrai, il y a des gens qui ne savent même pas s'écouter eux-mêmes. C'est vrai. Alors Lila, dans ce que vous nous dites, on peut imaginer, d'autant qu'on sait que les manipulatrices un peu toxiques, elles arrivent souvent à mettre dans leur filet l'homme grâce à une sexualité particulièrement active, torride. Donc, on peut craindre en effet que votre fils soit tombé sur une manipulatrice. Alors, si c'est le cas, de toute façon, quoi que vous disiez, il n'entendra rien tant qu'il est dans la phase lune de miel. En revanche, soyez présente à distance, ne critiquez pas sa compagne. Et puis, dès qu'il aura les premiers symptômes que la relation ne va plus bien, vous aurez à le recueillir à la petite cuillère, comme on dit. Voilà un peu l'analyse que je fais. Je pense quand même que vous êtes un petit peu trop proche de votre fils qui maintenant est adulte, parce que je ne pense pas que ce soit une bonne chose que d'aller vivre près de son fils quand il se met avec une femme, d'autant si la relation, parce qu'après tout, la relation, c'est peut-être une très belle relation passionnelle et non pas une relation toxique. Hein. Donc, ce n'était pas, à mon avis, de toute façon, une bonne idée d'aller vous installer près de lui, même si c'est lui qui l'avait demandé. Mais en tout cas, voilà un petit peu comme ça le diagnostic que je ferais à première vue, avec, je le dis encore une fois, des réserves, parce que c'est votre témoignage et donc forcément vous avez une vision particulière et personnelle de la situation. Christophe Médici ?
Oui, j'allais justement lui dire aussi ça à Lila, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est vrai qu'on dit souvent que l'homme de la vie d'une femme, c'est son fils, Lila, mais c'est une relation mère-enfant quand même. Il vit sa vie amoureuse, vous voyez, et j'allais dire ce que Brigitte a dit tout à l'heure, c'est à un moment donné aussi, la triangulation avec la belle-fille, ou même pas mariée, hein, elle est quand même basique et classique, bien souvent. Elle est visiblement jalouse de la relation privilégiée que vous avez avec votre fils, mais comme vous dit Brigitte, lui est un adulte, elle est une adulte, même si la relation est toxique, et même si vous le voyez, vous voyez ce que je veux dire Lila, et même si vous voudriez l'aider à pas se prendre un gadin, eh bien, comme dit Brigitte, il devra se le prendre, parce que c'est l'adulte qui vit son histoire d'amour. Soyez dans la bonne distance, Lila, avec votre fils, et lui aussi avec vous.
C'est ce que je fais. Ouais. C'est ce que j'ai appris à faire, ouais. C'est ce que je fais. Voilà quoi. Je comprends très bien qu'il a son histoire à vivre, ils ont leur histoire à vivre. C'est surtout que si vous voulez au début, enfin, j'ai pas compris à un moment donné parce que elle, quand elle est arrivée, elle dit ah oui Benjamin, sa maman c'est tout, sa maman c'est ci, sa maman c'est là. Elle a une fille donc je gâtais autant sa fille que mes petits enfants. Et elle disait, elle disait à sa fille, mais t'as de la chance, t'as trouvé une mamie comme t'en as jamais eu. Enfin, bon, voilà quoi. Donc, c'est pour ça que quand il. Bon, je sais pas, j'ai, sur le coup, pas tout à fait compris.
J'aurais tendance à dire, Lila, pas spécialement pour vous, parce que malheureusement, l'histoire est derrière vous. Quand c'est trop idyllique au départ, c'est jamais très bon signe. Je pense qu'il y a quand même, quoi qu'on en dise, la relation entre une femme et sa belle-fille est toujours une relation très très complexe. Et
il vaut mieux pas
qu'au départ ce soit trop idyllique parce que ça cache forcément à un moment donné après une rivalité.
Oui, complètement. Donc aujourd'hui, je les laisse vivre leur truc. Je me suis complètement retirée de la relation.
Ah, ça c'est bien. Bravo Lila.
Ah oui, complètement.
Mais restez présente à distance.
Je reste juste
dire...
présente. Voilà, ne coupez pas les liens. J'ai envoyé un message à mes petits-enfants. Ça a été son anniversaire la semaine dernière. J'ai envoyé un message. C'est la première fois qui m'a pas dit merci, il a dit merci Lila, sans une bise, sans rien du tout. J'ai envoyé les vœux, il n'a pas répondu. J'ai envoyé une très belle, très jolie chanson de Grégoire. Il m'a
Mais il y a des chances, malheureusement. Il y a des chances qui déchante. Mais il y a des chances qu'il déchante, mais vous serez là quand il aura besoin de vous. Pour l'instant, restez à distance, c'est le seul conseil qu'on peut vous donner. Et puis, bah, vous nous direz si on a fait le bon diagnostic ou
pas. Ok, je vous dirai.
Promis.
Je vous dirai ça. Oui, promis.
Bon courage.
Oui, merci
bon courage,
beaucoup
Mila.
À vous.
Bon courage. Bien. On continue avec Eric, justement. Bonjour, Eric.
Bonjour, Brigitte. Bonjour, Christophe.
Bonjour, Eric.
Voilà, moi. Okay. Donc, le sujet, c'est haute qualité. Pardon, je suis un peu...
La haute qualité relationnelle, oui.
Dans l'émotion, là. Et, alors, moi, ce que je peux vous dire, c'est que je pense qu'avec ma femme, nous avons une bonne qualité relationnelle, mais ça ne s'est pas fait tout de suite. Parce que mon passé, mon histoire familiale font que j'ai eu une vision très déformée de la réalité. J'ai eu des parents en dehors de la vie, un père lourdement handicapé, donc manque de vie sociale, de vie professionnelle, manque de beaucoup de repères, que j'ai mis une vie à acquérir, quoi. J'exagère à peine. Et j'ai rencontré ma femme, 28 ans, vit ensemble depuis 23 ans. Et on a eu un cheminement un peu tous les deux. Au début, je ne pensais pas être amoureux d'elle, par exemple. J'avais une vision déformée de l'état de comment on pouvait être amoureux.
Vous saviez pas, vous aviez aucune idée de ce que c'était qu'être amoureux. Mais vous étiez bien avec elle dès le départ ?
Et malgré qu'au départ, elle était, elle, en couple avec quelqu'un d'autre, mais ça marchait plus très bien. Et on avait du mal à ne pas se voir pendant plus d'une semaine, 15 jours, malgré moi, je me disais qu'on était seulement amis. Et elle savait depuis le début quasiment qu'on était fait l'un pour l'autre, on va dire. Et elle a été très patiente.
Et elle a apprivoisé.
Et elle m'a apprivoisé, voilà.
Oui. Mais c'est bien. C'est bien parce que finalement, vous aviez pas du tout appris ce que c'était qu'une bonne relation, visiblement. Vous étiez
ouais.
Totalement sauvage. Et puis, elle a su sentir ce qu'il y avait en vous et elle a su tout doucement vous apprivoiser comme un animal sauvage. Et aujourd'hui, vous êtes visiblement dans une haute qualité relationnelle tous les deux.
Oui, et comment vous communiquez, Eric, maintenant, tous les deux ? Vous communiquez bien ?
On communique bien, mais ça ne s'est pas fait tout seul non plus. Il y a eu des hauts et des bas. Par exemple, je suis parti pendant 2 ans. On a fait un break de 2 ans, quoi, on va dire, parce que ça marchait plus du tout après un épisode de maladie pour moi et qui a remis beaucoup de choses en question. Et puis, on a appris à ne pas se prendre la tête en simplifiant pour des bêtises, pour des choses pas importantes. Et à se dire les choses vraiment importantes.
Mais là, Brigitte, si je peux me permettre, ce que nous dit Eric nous en dit beaucoup sur la HQR dans le couple. Parce que, oui, on le disait dès le début de l'émission, on apprend à communiquer, on ne naît pas, le couple ne naît pas HQR, il le devient, Eric, vous voyez. Et on voit bien que parfois, c'est comme on dit dans le coaching américain ou canadien, c'est après des échecs, des tentatives, j'aime pas le mot échec, mais en tout cas des difficultés, on tombe, on se relève, on tombe 9 fois, on se relève 10, qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui naît, qui devient harmonieux. C'est pas forcément harmonieux tout de suite. On arrive tellement avec nos casseroles, avec nos blessures, avec nos déceptions d'avant. Je viens de finir un livre là-dessus. On arrive avec plein de choses. Et évidemment que c'est pas simple au début, vous voyez. Et que donc maintenant c'est bien, Eric. Ça devient HQR, vous voyez. Après des 2 ans de break, après tout ça. Je suis clair ou pas?
Ouais, mais c'est vraiment ça. Ouais. On a appris, d'autant qu'elle arrivait avec ses propres casseroles.
Mais oui.
Voilà, elle n'était pas. Elle n'était pas totalement indemne non plus de son passé. Et on a vraiment appris beaucoup de choses tous les deux ensemble. On a fait un grand bout de chemin ensemble.
Vous avez eu une maladie assez grave, j'imagine, puisque ça a provoqué une séparation de 2 ans. Peut-être que ça vous a fait relativiser aussi et que vous êtes dit que l'essentiel était peut-être ailleurs.
Il y a eu un gros changement dans ma vie puisque j'ai attrapé un cancer et à partir de ce moment-là, je n'ai plus retravaillé, quoi. Disons que je suis passé à la retraite 10 ans avant l'heure.
Anticipé,
Donc c'est vraiment un gros changement, et la maladie en elle-même vous fait prendre conscience de votre fragilité, et donc qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui est moins, voilà.
Et du coup vous vous embêtez plus avec des broutilles parce que vous allez à l'essentiel.
En gros, ouais, il y a eu ça n'a pas été aussi simple, mais oui on est arrivé à cette conclusion, ouais. Voilà. Et ça marche plutôt bien, malgré des petites tensions qui peuvent revenir, des petits...
C'est jamais parfait, hein, de toute façon, la relation à l'autre, hein, Eric. Mais ce que je trouve intéressant, voilà. On a tendance, c'est vrai, à penser que la relation va aller mieux au début parce qu'on est amoureux et qu'ensuite, ça va aller de mal en pis. Mais en effet, quand on sait chacun mettre un petit peu d'eau dans son vin... On peut améliorer la relation, et visiblement, vous avez tous les deux... Alors, au début, c'est certainement elle qui vous a apprivoisé, et puis petit à petit, vous vous êtes rendu compte qu'elle était très importante pour vous, qu'elle était un peu votre pilier, et vous avez su aussi vous adapter.
On était un peu deux âmes sœurs, quoi. Et elle dit que c'est une histoire d'amour karmique, et c'est vrai qu'on a l'impression, depuis presque toujours, malgré tous les hauts et les bas, tous les intermèdes de s'être connu dans une autre vie. Enfin, vraiment, il y a quelque chose, une relation, ouais, une communication, une connexion, quoi, qui s'est installée, qui était dès le début et que moi, je savais pas bien voir. On est passé par la période lune de miel pendant 2-3 ans. Après, ça s'est un peu dégradé, ouais, petit à petit. Enfin, il y a eu des choses qui se sont un peu mise en sur-régime, et puis jusqu'à la maladie qui a marqué un tournant dans l'histoire. Et je ne sais plus d'où on était parti, mais...
Vous savez, Eric, j'aime bien cette image que vous allez certainement comprendre, puisque vous parliez d'âme-sœur. J'aime bien cette image de taux vibratoire. Et je pense qu'on a chacun un taux vibratoire différent. Et quand on est bien avec quelqu'un, en règle générale, les deux taux vibratoires s'adaptent, s'accordent. Et après, malheureusement, il y en a un qui peut à nouveau se changer et créer donc un fossé entre les deux. Mais visiblement, dans ce que vous racontez, vos taux vibratoires maintenant sont au même rythme. Et c'est pour ça que ça circule bien, que ça va bien.
Et les taux vibratoires, Brigitte, c'est l'histoire de changer de latitude quelque part au niveau de son énergie et de ses vibrations. C'est très beau, c'est très juste. Oui. Et effectivement, ce qui est terrible parfois, c'est lorsque quelqu'un... Parce que le but d'un couple, c'est de grandir ensemble, hein, et de s'élever ensemble. Le but d'un couple, à mon sens, c'est de à la fois aider l'autre à grandir. Et donc, c'est toi de taux vibratoire, et ça on peut le dire à tous les couples qui nous écoutent, c'est effectivement d'aller ensemble changer, comme dirait Bertrand Piccard, dans des latitudes positives. Plus haut, ça c'est fort, les couples qui sont capables de ça. C'est clair, Eric.
En tout cas, c'est un joli témoignage, Eric, bravo, merci. Et pourtant, vous ne partiez pas avec une haute qualité relationnelle et avec tous les outils dont dispose Christophe. Hein. Visiblement, vous partiez avec à peine un sac au dos. Hein.
Pas mal de...
Et ben, voyez,
comme quoi, c'est l'éducation de la vie, Brigitte, n'est-ce pas, hein. Il ne suffit pas de l'avoir lu dans les livres, ils l'apprennent dans leur quotidien. C'est beau.
Bravo, ouais, bravo, Eric. Bravo. Merci. Alors, Odile est avec nous dans un instant, Christophe Médici. Alors, je crois qu'ils n'ont pas de communication verbale, mais qu'ils communiquent quand même, et puisqu'ils sont ensemble depuis plus de 30 ans. Elle nous raconte dans un instant.
14h-16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
C'est avec Christophe Médici que nous vous aidons à améliorer votre qualité relationnelle dans votre couple, et que surtout nous vous conseillons d'éviter les messages toxiques, comme par exemple les critiques « tu n'as pas fait ça »,« tu aurais dû faire », etc., etc. Le fameux « tu qui tue » dont on parle souvent évidemment, Christophe Médici, dans cette émission.
Absolument.
Alors Odile, bonjour.
Bonjour. Bonjour, eh bien je vais faire suite à ce que disait votre précédent intervenant, qui parlait des âmes sœurs, pas jumelles, hein, des âmes sœurs, des énergies qui passent entre les couples. Et moi je vous dis que j'ai tout à fait l'impression de me poser la question de savoir qui nous sommes les uns pour les autres, ce qu'on vient faire ici, quel travail on fait avec d'autres, dont notamment avec des conjoints, etc. dans le même genre. Et moi, j'ai vécu 36 ans avec le père de mes deux enfants, là, qui, en fin de compte, je n'ai pu avoir aucune communication avec lui. C'était presque un jeu, une partie de bras de fer auquel on s'exerçait l'un et l'autre. Évidemment, il n'a pas pu jouer complètement un rôle de pervers narcissique manipulateur à fond parce que j'étais pas très manipulable. Je n'étais pas manipulable. J'étais élevée par un père qui me disait que je n'avais de compte à rendre qu'à moi-même. Donc j'étais déjà assez construite, alors que lui cherchait à se frotter les dents sur quelqu'un de déjà construit pour se construire lui. C'est ce que j'en ai tiré comme... Donc c'était à jeu continu que tout ce... Il n'a jamais été dans le sens de faire quelque chose. S'il savait que quelque chose me fait plaisir, il ne le faisait pas. Il faisait le contraire. Ça a été
alors,
toute
Odile,
une vie
je crois que ce qui est important réellement, peut-être pas pour vous, parce que vous avez visiblement assez bien cerné la relation que vous avez vécue avec cet homme, mais pour ceux qui nous écoutent, il faut quand même savoir qu'un pervers manipulateur, j'aime pas utiliser le mot de pervers narcissique,
oui, trop,
parce qu'il
n'y
en a pas tant que ça, et c'est une expression qu'on entend un peu à tort et à travers. En tout cas, un manipulateur pervers va de toute façon choisir comme proie quelqu'un qui est manipulable. Donc de toute façon, déjà, votre compagnon n'était certainement pas un pervers. En revanche, on sait très bien que dans un couple, quand l'un des deux a du mal avec son identité masculine ou féminine, il n'a qu'une solution, c'est rabaisser sans arrêt la personne en face. C'est-à-dire que si cet homme avait du mal avec sa virilité, qu'est-ce qu'il pouvait faire ? Vous essayez de vous rabaisser parce que s'il vous... Vous savez, c'est un peu le principe de la balançoire qu'on voit dans les parcs pour enfants. Il y en a un qui est en haut, l'autre qui est en bas. Et puis il y en a un qui est en haut et puis l'autre qui est en bas. Eh bien, comme il était en bas de par son manque sans doute de confiance dans sa virilité, il a essayé toute sa vie de vous rabaisser. Mais comme vous avez résisté, eh bien, ça a créé un couple dissonant. Parce qu'évidemment, quand on est avec quelqu'un qui essaye de nous rabaisser alors que soi-même, on ne manque pas de confiance en vous, et visiblement, vous pouvez dire merci à votre papa, eh bien, ça a créé un couple qui, évidemment, n'arrivait pas à communiquer puisqu'il essayait de vous rabaisser, vous ne vous laissiez pas faire, et donc forcément, c'était en conflit.
Exactement, même au niveau des énergies pour la santé, quand il y en a un qui allait bien, l'autre allait moins bien, etc.
Ouais, mais Odile, si je peux me permettre, Brigitte, ce qui me frappe aussi, Odile, c'est que vous avez dit dès le début, presque pendant tout le temps, on communiquait pas, on était presque, moi j'appelle ça la stratégie du mur de pierre, il y avait une difficulté à échanger tous les deux, c'est ce que j'ai bien entendu,
totalement,
Odile.
Totalement.
Donc c'était quand même un couple à dominante basse qualité relationnelle, si on reprend la grille de ma méthode.
Oui.
Vous étiez ensemble dans une espèce de tension presque continuelle, chaque jour c'était un peu la guerre de tranchées, un peu.
Oui, mais c'est-à-dire que je pense que si on a pris un contrat de vie l'un avec l'autre, parce que la seule chose c'est l'évolution qui compte, pour exécuter ce contrat, en fin de compte on a inconsciemment, ou même plus que consciemment pour moi, accepté de jouer les rôles, de rentrer dans l'arène, de faire face et de recommencer constamment.
Mais alors la question que je vous pose, Odile, pourquoi vous l'avez choisi lui au début ?
Parce qu'on s'était déjà choisi, hein.
Oui, vous avez une grille de lecture comme quoi il y a quelque chose qui venait de là-haut, un peu.
Ah ben
comme...
On n'est pas des pages vides quand on vient. Hein.
Oui, c'est ce que on voit la grille de lecture que vous prenez, Odile.
On
la partage pas, mais.
Vous avez l'air de dire que de toute façon cet homme n'était pas fait pour vous.
Enfin, il était fait pour moi. Bien sûr on était fait l'un pour l'autre d'une certaine façon.
Alors,
pas de la façon classique, mais d'une certaine façon, on est venu accomplir quelque chose l'un pour l'autre.
D'accord, mais
qu'est-ce
qu'il vous a permis d'accomplir alors, vous ?
Eh bien, moi, il m'a permis de grandir, de comprendre, parce qu'à chaque fois au cours de ma vie, j'ai réfléchi beaucoup, j'ai essayé d'aller assez profond pour comprendre des phénomènes.
Oui, mais Odile, ce que vous dit Brigitte, et je partage un peu ce que dit Brigitte, la question qu'on a envie de vous poser, moi, je suis assez d'accord qu'on est redescendu sur Terre pour jouer le jeu de l'amour, hein, ça, je le pense, pour apprendre à mieux aimer. Mais alors justement, pour le coup, le couple, il est fait pour ça. Est-ce que vous avez réussi tous les deux à mieux comprendre ce que c'était aimer et aimer l'autre ? Ou est-ce qu'il y a eu un statu quo et ça a empiré ? C'est ça la vraie question qu'on vous pose.
Comprendre ce qu'est l'amour, oui, mais on n'a pas réussi à le faire passer
réellement
dans le vécu.
Alors, ce n'était pas un couple qui vous a épanoui, Odile.
Non,
ce n'est pas un couple qui vous a épanoui, Brigitte a raison.
Non, mais Odile, ce que je crois surtout, c'est que vous êtes quelqu'un qui, de toute façon, quelle que soit l'épreuve, vous allez essayer d'en faire quelque chose, de l'interpréter, de lui donner du sens. Et je vous j'applaudis des quatre mains, parce que pour moi, c'est ça la vie. Si ce qui nous arrive ne nous sert pas à nous améliorer et à donner du sens, on passe à côté de sa vie. Donc de ce côté-là, très bien. Sauf que il y a quand même un détail qui, pour moi, me paraît essentiel. Pourquoi, au départ, choisissez-vous cet homme ? Et ne me répondez pas parce que c'était celui-là. Vous voyez, il y a quelque chose dans votre propre histoire. Alors, est-ce que c'est parce que votre père, vous l'avez tellement idéalisé qu'il fallait forcément choisir un homme un peu minable pour qu'on ne fasse pas tomber le père de son piédestal ? Je ne sais pas. Mais vous voyez, il y a forcément quelque chose qu'il faut comprendre dans votre histoire. Vous voyez ce que je veux dire ?
Mais ce qui reste maintenant, après 36 ans, moi je sais qu'on a pour l'un et l'un pour l'autre de l'attachement. On ne vit plus dans la même maison, mais on est à 15 kilomètres. Et par exemple, quand on s'est séparés, on était tous les jours ensemble. On n'a jamais cessé des relations sexuelles. Hein. On a été un couple incompréhensible pour le commun des mortels.
Mais alors sexuellement, ça colle parfaitement bien, peut-être. Ça peut suffire à faire tenir un couple.
Hein, parce que je crois que si j'avais recommencé, je referais la même chose.
Alors moi, Odile, ça me fait penser. Brigitte, ça me fait penser à la typologie de Paul Salomon. Vous savez, dans la Sainte Folie du couple, dans les différentes typologies de couple. Peut-être qu'il y avait un rapport un peu, alors je mets beaucoup de guillemets, hein, puisque sexuellement ça marchait, d'accord Odile, ok ? Il y avait un peu un petit jeu sadomaso entre vous deux alors ?
Ah oui, parce que...
Ah bah voilà, vous êtes Paul Salomon appelle le couple sadomaso dans la Sainte Folie du couple. D'accord. J'ai bien connu, mes parents étaient comme ça. C'est des couples qui durent, ils s'en mettent plein la tête toute la journée pendant 40 ans, mais ça dure 30 ans, oui. Mais alors bonjour le climat relationnel, Odile. Bonjour le climat, il y a colis que ça marche.
Ça se réconcilie sous l'oreille.
Voilà Brigitte, s'il y a colis que ça marche.
Non, ça se réconciliait pas vraiment. Hein. Mais je veux dire que moi très vite j'ai pris l'idée, enfin la conscience je dirais, que nous étions en train d'accomplir notre contrat. Et c'est pour ça que je dis que si j'avais recommencé, je referais pareil.
C'est un contrat avec le diable quand même, hein, Odile.
Non, un contrat d'évolution n'est jamais un contrat avec le diable. Au contraire.
Je ne sais pas, mais en quoi vous voulez dire
les gens pensent qu'ils viennent sur la Terre pour être heureux, mais les gens viennent sur la Terre pour expérimenter, évoluer, les uns avec les autres, les uns par les autres. Donc, dans cette façon de voir les choses, c'est dans l'ordre. Et puis moi, je suis persuadée que tout est dans l'ordre.
D'accord,
mais par contre, il y a une chose troublante, c'est que ma fille, elle s'est retrouvée avec un vrai de vrai pervers narcissique. Elle a failli passer de l'autre côté. Hein. Et comment ça se rejoue après, je suis en train d'essayer essayer de comprendre ces choses-là. Voilà.
Bon, bah écoutez, vous êtes convaincue, on va pas essayer de vous contredire, Odile. Hein, moi, après tout, ce qui est important, vous avez l'air de trouver que ça a du sens. Et encore une fois, pour moi, c'est peut-être la chose la plus importante, savoir mettre du sens dans sa vie. Merci en tout cas,
merci, Odile.
De ce témoignage de, on ne dira pas de haute qualité relationnelle, néanmoins. Christophe Médici, une petite pause, et puis on va passer au Love Conseil, et on va parler de la perception du monde. Il y a quatre manières de percevoir le monde, vous le saviez ou pas ?
J'ai hâte de l'entendre.
À tout de suite.
Sud Radio Brigitte Lahaye, le Love Conseil.
Alors justement, Christophe Médici, puisqu'on parle de haute qualité relationnelle avec vous, d'écologie relationnelle, comme je le disais tout à l'heure en introduction, je vous propose de vérifier quelle est la perception du monde que vous avez. Alors justement, j'en ai repéré quatre. D'abord physiquement, par nos sens, hein, en quelque sorte. Ensuite, on pourrait dire intellectuellement, donc par notre pensée. Ensuite, émotionnellement, c'est-à-dire par nos émotions. Et à ne pas négliger, je rajouterais spirituellement, c'est-à-dire par la manière dont on met du sens. Et on vient d'avoir le témoignage d'Odile. On voit que certainement, elle a une dimension très spirituelle, peut-être même très religieuse, de sa manière de percevoir le monde. Et donc, tout ça nous permet de voir de quelle manière on perçoit le monde. Alors, plus on va jouer sur ces quatre dimensions, mieux ce sera, évidemment, parce que quand on est trop axé sur une seule dimension, notamment, je pense, à la dimension intellectuelle, c'est pas terrible pour les relations amoureuses. Quand on est réellement basé uniquement sur la perception intellectuelle. Voilà, alors donc on a tous cette capacité à percevoir le monde de ces quatre manières, et puis chacun d'entre nous, bien sûr, va privilégier plutôt l'une, plutôt l'autre. Alors ça va dépendre évidemment de notre propre nature, mais aussi évidemment de notre éducation, de notre culture. Et l'intérêt, c'est de prendre conscience déjà de la manière dont on fonctionne, de nos conditionnements, et puis tout doucement de modifier un tout petit peu. Par exemple, si on manque vraiment de capacité physique à percevoir le monde, c'est-à-dire qu'on n'est pas assez dans son corps justement, eh bien il va falloir faire des exercices qui vont nous permettre d'être un peu plus dans le corps, notamment par la respiration. C'est en général le premier exercice que je conseille quand on a du mal à être dans son corps. Et puis bien sûr, il est intéressant aussi de voir comment le partenaire perçoit le monde afin de mieux communiquer sur nos différentes visions. Parce que je crois aussi qu'il y a beaucoup de mauvaises qualités relationnelles, Christophe, parce que justement, on ne voit pas le monde de la même manière. Imaginons quelqu'un qui est très dans l'émotion et qui se retrouve avec un partenaire qui va être très dans l'intellectualisation. Ça sera difficile de communiquer puisque l'un va communiquer par ses émotions et l'autre va tout de suite rationaliser. Et donc, celui qui communique par ses émotions aura l'impression de ne pas être entendu, de ne pas être compris.
C'est ce que j'allais dire en écho à votre très belle chronique, c'est-à-dire que parfois il y a un jugement très vite du conjoint ou de la conjointe sur ce que les Allemands appelaient la vision du monde, la Weltanschauung de l'autre, c'est-à-dire ils ne veulent même pas l'entendre parce qu'elle n'est pas dans son cadre. Or, j'aime beaucoup cette phrase de Saint-Exupéry, on peut dire ça pour son amoureuse ou son amoureux, « Frère, si tu diffères de moi, loin de me léser, tu m'enrichis. Enrichissez-vous de la vision du monde de l'autre et comme ça, cumulez vos deux visions du monde pour filer votre chronique, Brigitte. » Et c'est ça qui est beau. C'est ce.
Alors justement, Christophe, quelle serait votre vision du monde ? Quelle serait la...
Eh bien, paradoxalement, elle n'est pas si intellectuelle que ça, la mienne. Je suis assez sensible.
J'en suis certaine. Alors ça, j'en suis certaine. Vous n'avez pas besoin de me convaincre,
Christophe. Je suis assez sensible, moi, Brigitte. Comme tout taureau, je parle à l'astrologue, là. Hein. Mais je passe
quoi
beaucoup...
Quoique le taureau, c'est surtout les sens. Hein. C'est,
voilà,
c'est en général quelqu'un qui est très...
Je passe beaucoup par les sens et la sensibilité. Et je suis très dans les sens vis-à-vis des gens. Il faut que je les sente. Et à partir du moment où je les sens, ben par contre, j'ai une sorte de médiumité par rapport à sentir. Quand on parle de gérer les personnes toxiques, finalement, quand on fait un travail sur soi, à force d'avoir vécu des coupes ou avoir vécu des blessures d'enfance, on peut avoir la gratitude malgré tout, ce que j'appelle dans un livre la gratitude malgré tout. Ces blessures-là, finalement, elles nous ont vaccinés. Et peut-être elles nous ont rendus capables, peut-être rapidement, d'être plus lucides sur qui on a en face de nous. Parce qu'on a vécu, on a traversé ces guerres avec beaucoup de guillemets, vous voyez ? Et on est plus sensible.
Et oui, et donc à chacun de percevoir sa perception, la manière dont il perçoit le monde, et ça pourra peut-être l'aider à mieux se comprendre déjà, et puis peut-être aussi à mieux comprendre l'autre. Demain, nous aborderons un sujet difficile. Nous allons parler de l'inceste et nous aurons le plaisir de nous retrouver à nouveau avec Bruno Clavier qui a beaucoup écrit sur l'inceste et qui nous aidera justement à comprendre quels sont les enjeux d'une société qui est encore avec ce tabou de l'inceste qu'il faut absolument lever. Et on fera ce qu'on peut pendant 2 heures. Et tout de suite, nous retrouvons Patricia en couple depuis 3 ans, je crois. Bonjour Patricia.
Oui, bonjour à vous et votre invité. Merci.
Bonjour Patricia.
Bonjour. Oui,
Christophe
tout à fait.
Christophe Médici, je suis en couple qui est avec nous.
Oui, j'ai vu ça, oui. Oui, je suis en couple depuis 3 ans, oui, tout à fait. En fait, j'ai pas trop de batterie, j'espère qu'on va pas être coupé. Hein. Je suis désolée, je suis pas chez moi. Et voilà.
Mais écoutez, on va faire avec. Hein.
Oui, tout à fait. Donc en fait, moi j'avais évoqué avec la personne qui m'a reçue au téléphone... un petit souci récurrent, ben ça fait plus de 3 ans du coup, je suis avec mon compagnon donc depuis 3 ans, je le connais depuis 5 ou 6 ans je pense, et avant ça il avait une relation avec une très bonne copine à moi, c'est une copine à moi, on se fréquentait les week-ends tout ça, pas trop d'intimité parce que c'était quelqu'un qui parlait pas trop comme Nana, et donc elle était avec lui, mais c'était le grand secret du village, etc. Et donc après, quand elle s'est séparée, ben moi j'ai eu une relation avec lui. Et depuis, nous sommes en couple, donc depuis 3 ans. Et en fait, il m'a avoué qu'il était amoureux de cette fille-là à l'époque, donc il ne l'est plus. Ok, tout ça jusque-là, c'est clair et tout. Mais moi, je ne lui parle plus. Enfin, voilà, parce que on s'est envoyé des petits textos et puis voilà.
Mais
on se parle.
Mais c'est à elle que vous ne parlez plus, c'est ça ?
Oui, tout à fait. À elle. Ah mais non, parce que je suis en couple avec lui, voilà. Et à elle, je ne lui parle plus. Voilà. Et en fait, si vous voulez, ça fait 3 ans que ce que je ne comprends pas, pourtant j'ai essayé de me soigner, j'ai vu des gens qui m'ont essayé de m'aider pour avoir la confiance en moi, etc. C'est quelqu'un qui boit pas mal comme personne, la fille en question. Et donc, si vous voulez, c'était des soirées de beuverie à l'époque. Bon, bref. Donc aujourd'hui, je suis toujours jalouse de ce nana. C'est ce qui m'agace, en fait. Je ne sais pas comment m'en dépêtrer de ça, quoi.
Bah, il vous a quand même dit qu'il avait été amoureux d'elle.
C'est ça, ouais, tout à fait, à l'époque.
Alors ouais. Là, c'est quand même un message très toxique qui a pénétré votre cœur.
Ouais,
vous voyez, et c'est dommage qu'il vous ait dit ça, parce que ça reste quelque chose que vous gardez en vous. Il a été amoureux d'elle, et est-ce qu'il est amoureux de moi ?
Oui, alors il me le dit depuis le début. Que, bon, après, il m'a toujours dit qu'il me voulait à moi. Bon, il m'a draguée pendant des années avant qu'on soit ensemble. Mais bon, après, je ne sais pas si c'est faute de mieux qu'il a été avec elle. Enfin, faute de mieux, faute de ne pas m'avoir, je veux dire, qu'il a été avec cette personne en attendant ce qu'il voulait. Il m'a toujours dit, moi, c'est toi que je voulais, et puis tu ne voulais pas, donc voilà. Mais effectivement, il a été amoureux de cette personne-là. Et après...
Mais, Odile, oui, vous êtes en rivalité, vous mettez en rivalité avec cette femme.
C'est Patricia qui est avec vous.
Patricia, oui, pardonnez-moi, oh là là, Brigitte, je suis désolée. Patricia, vous mettez en rivalité un peu, il y a une sorte de jalousie, on a l'impression.
Mais oui, c'est ça.
Mais pourquoi, là? Alors que...
Mais je ne sais pas.
C'est complètement.
Mais c'est pour ça qu'elle nous appelle, Christophe.
Oui, mais
c'est pas ça. C'est que nous, on joue un peu les maïoticiens, n'est-ce pas, Brigitte? On est un peu des Socrates de la radio. C'est qu'il faut l'aider à comprendre pourquoi elle est jalouse. Pourquoi?
Oui, c'est ça. Je ne comprends pas.
Et quand ils étaient ensemble, qu'est-ce que vous ressentiez?
Rien.
Bah alors?
Bon. Et pourtant, il vous a intéressé parce qu'il a été avec elle. On peut l'imaginer.
Non.
Non, on peut l'imaginer, j'ai dit.
Oui, on peut l'imaginer.
Parce que vous voyez, enfin, c'était vraiment une très très proche amie. C'était une copine.
Oui, tout à fait. Ouais.
Une copine. Et est-ce que quand ils étaient ensemble, vous aviez l'impression qu'ils étaient très amoureux, qu'il y avait une sexualité très riche entre eux, il y avait quelque chose comme ça qui pourrait rester en mémoire?
Ouais, je ne sais pas trop ce qu'est leur sexualité, ce qu'était leur sexualité. Je pense pas qu'elle soit, enfin, riche ou pas, je ne sais trop rien. J'ai eu accès à des messages qui m'ont un peu perturbée. Donc, je pense qu'ils avaient une activité sexuelle qui devait leur convenir à cette époque-là.
C'est quoi ces messages, Patricia? Ils sont pendant votre relation, ces messages? Vous avez eu accès à des messages quand?
Non, avant que l'on soit en relation.
Avant.
D'accord. Ouais. Et c'était quoi le contenu de ces messages? Des messages sexuels? Des messages d'amour?
Oui, tout à
fait. Ouais, messages sexuels. D'accord. Et comment est votre sexualité maintenant avec lui?
Alors, bien, on en discute et tout, bien, ça, tout se passe bien. Très bien. Oui.
Tout se passe très bien, d'accord. Oui. Et c'est la première fois que vous avez un sentiment comme ça de rivalité, de jalousie avec une femme?
Ben, à ce niveau-là, oui, et c'est ce qui me dérange en fait. Mais je ne comprends pas pourquoi je ne suis pas sereine avec ça, alors qu'il me dit haut et fort qu'il est amoureux de moi, ça m'agace en fait.
Mais ça vous est déjà arrivé d'être un petit peu quand même, toujours un peu inquiète, un petit peu... C'est un peu dans votre nature ou même
un petit peu, oui, quand même, un petit peu jalouse, bon. Oui, quand même, hein, à la base.
Donc je pense que c'est dû à, certainement, comme dirait les psy, un complexe d'Œdipe pas tout à fait réalisé, pas tout à fait digéré. Et là, comme ils ont eu une sexualité quand même vraiment ensemble et devant vos yeux, en quelque part, vous voyez, ça réveille ce fond de complexe d'Œdipe qui n'est pas résolu. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, elle serait la maman, lui le papa, et vous la petite fille qui est jalouse et qui essaye de récupérer le papa, mais qui en même temps est jalouse de la maman. Vous voyez, c'est certainement une triangulation qui est difficile pour vous à dépasser, parce qu'il y a quand même eu réellement sous vos yeux, en quelque sorte, consommation de sexualité. Donc c'est un petit complexe à résoudre. Qui peut, à mon avis, se résoudre assez vite avec un thérapeute. Sans doute que ça réveille quelque chose de votre enfance quand vous aviez papa, maman sous vos yeux et que quelque part, c'était pas comme vous vouliez. Parce que la petite fille, elle aurait bien aimé avoir papa.
Et Brigitte, Patricia, ce que j'ai envie de vous dire aussi, pour reprendre la grille de la méthode haute qualité relationnelle, j'aimerais savoir à quel moment ce que vous avez, vous, dans vos têtes, cette jalousie vis-à-vis de cette femme, a-t-elle des conséquences dans votre relation amoureuse avec votre conjoint ? C'est-à-dire, votre jalousie, vous la vivez intérieurement qu'avec vous-même, ou est-ce que vous faites des scènes de jalousie à votre conjoint en lui parlant d'elle ?
Alors, des scènes de jalousie, je n'irai pas jusque-là. Par contre, l'autre fois, en prenant le téléphone, on le regardait ensemble, j'ai vu un message d'elle, en fait. D'elle qui pensait, qui lui posait une question, qui lui demandait s'il était au lit à 22h.
Oui, mais là, excusez-nous, vous nous donnez maintenant, alors on va aller plus loin. Brigitte disait qu'on essaie de vous donner des réponses. Vous nous donnez du grain à moudre un peu plus. Visiblement, elle est encore présente dans la vie de votre conjoint.
Ah oui,
d'accord.
Cadeau d'anniversaire.
Ah ouais, mais là, vous avez peut-être des raisons d'être un peu jalouse. Parce qu'attendez, il vous a dit qu'il avait été amoureux d'elle et il n'a pas complètement coupé les ponts. Donc il y a quand même quelque chose qui est un peu normal que vous soyez un petit peu jalouse.
Exactement.
Oui, mais je suis d'accord avec vous, mais je veux pas, en fait.
Oui, mais il y a anguille sous roche. Vous sentez peut-être qu'il y a anguille sous roche, c'est ce que sous-entend Brigitte. Vous voyez, moi, je vous pose des questions pour savoir ça. Vous voyez, Patricia.
Ouais, je comprends.
Il y a deux types de jaloux. Il y a le jaloux qui crée tout dans sa tête et en fait il se fait un film et il n'y a rien parce que, comme dit Brigitte, c'est un Oedipe mal résolu et c'est son problème uniquement. Puis il y a le jaloux où il y a des raisons un peu, ou des jalouses où il y a des petites choses, vous voyez. C'est pas la même chose. Hein.
C'est ça, c'est parce que je sais qu'ils sont en contact, rarement certes, mais en contact quand même. Pour la bonne année, il a appelé.
Ça, à la limite, ça va. Mais voyez, je pense qu'il y a un peu des deux. Il y a un petit peu de jalousie de votre part et là, elle est titillée en plus par des éléments qui sont quand même là. Après, vous êtes ensemble quand même depuis 3 ans. Il vous a choisi vous. Enfin, sincèrement, je pense qu'il n'y a pas de raison de continuer à être jalouse. Donc, un petit travail serait nécessaire, je pense, pour vous en débarrasser. Mais quand elle demande si à 22h il est au lit, c'est pas cohérent par rapport à ce qui s'est passé entre eux. C'est terminé. Et en plus, vous n'êtes plus amis avec elle. Mais il faudrait aussi qu'il soit clair pourquoi il maintient un lien. Qu'est-ce que ça lui apporte? Qu'est-ce qu'il a encore réellement de lien avec cette femme?
C'est ce que je lui ai, en fait. C'est ce que j'ai essayé de savoir et qui m'a dit que c'était une bonne amie et que ça reste toujours une bonne amie. Il a toujours des liens, enfin, des contacts avec ses ex. Hein. Ça, je sais pas pourquoi il est comme ça. Je sais pas.
Alors, tout dépend de avoir de rester en bon contact avec ses ex, c'est plutôt bon signe. Mais tout dépend qu'est-ce qu'il appelle à rester en bon contact. Si c'est tous les jours ou si c'est une fois tous les 6 mois, voyez.
Oui, c'est ça.
Il y a des relations avec des ex qui peuvent être équivoques, Patricia. On est d'accord. Et d'autres qui ne le sont pas du tout.
Ouais.
Alors, de quelle famille de relation avec cet ex est celle de votre conjoint ? Après, est-ce que vous en discutez une fois au moins avec lui ? De manière claire, la HQR, vous savez, Patricia, c'est aussi exprimer les choses. Dire tranquillement, hein, d'une manière relationnelle, mais en parler tranquillement.
On l'a fait.
C'est important.
On l'a fait parce que, comme on l'a eu reçu chez nous, parce qu'il avait invité à l'apéro et tout, j'ai dit, bon, écoute, maintenant que j'habite avec toi, moi, j'ai dit, ça ne me fait pas plaisir qu'elle vienne faire chez nous, parce que j'ai dit, je pense que j'ai un petit peu mon mot à dire aussi, puisque je vis avec toi. Moi, ça ne m'intéresse pas, je ne l'aime pas, et je n'ai pas envie qu'elle vienne chez nous. Voilà, j'ai été claire.
Bravo.
Sincèrement, je pense
que vous êtes tout à fait en bonne qualité relationnelle avec vous-même. Donc, il y a peut-être quand même des petites raisons qui font qu'il a mis un peu de poison dans vos veines. Et donc, il y a peut-être des petites raisons à être jalouse. Donc, essayez d'analyser plus clairement la situation avec ce qu'on a dit. Et si vraiment il y a des vraies raisons d'être un peu jalouse, écoutez, je crois qu'il faut lui faire comprendre que si vous faisiez pareil, ça ne lui plairait pas. Et que donc, il est temps qu'il mette un peu de distance avec cette femme. C'est tout.
Bon, la distance, elle y est, c'est ce qui me fait plaisir, c'est qu'il a quand même mis la distance, mais quand même, de temps en temps, je m'aperçois qu'il communique encore, quoi. Qu'il ne me le dit pas, d'ailleurs. Je dis, mais tu sais, pourquoi tu ne l'appelles pas quand je suis là, quoi. Enfin, ça ne me gêne pas.
Oui, enfin, en même temps, il peut l'appeler quand vous n'êtes pas là, ce n'est pas le problème. Mais c'est la manière dont... Enfin, dans ce que vous nous racontez, ce n'est pas très clair, quand même. Donc, voilà ce qu'on peut vous en dire. Après, c'est à vous de... Mais je pense que vous êtes apte. Avec les échanges qu'on a eus tous les trois, vous êtes aptes à faire la part des choses et à régler le problème. Vous êtes adulte, il me semble. On vous fait confiance, Patricia. On fait une petite pause et on se retrouve dans un instant avec Elisa qui nous a rejoint tout de suite.
14h-16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Avec Christophe Médici, et si vous voulez participer au stage de formation qu'il va faire le samedi 12 février sur le thème « Cessez de saboter vos histoires d'amour dans la vie et de faire des mauvais choix », vous pouvez aller sur le site hautequaliterelationnelle.fr ou sur sudradio.fr, évidemment. Alors justement, les messages toxiques, hein, c'est parfois des messages qui nous rendent jaloux. On l'a vu avec le témoignage de Patricia. Et là, c'est encore autre chose, c'est Elisa qui nous appelle. Bonjour Elisa.
Oui, bonjour Brigitte, bonjour à votre invité.
Bonjour Elisa. Donc,
bon, moi je viens vers vous parce que j'ai un souci. En fait, ça fait déjà quelques mois, j'ai rencontré quelqu'un et je m'aperçois que, bon, il ne s'est rien passé entre nous, mais il s'avance et quelquefois il s'avance un peu trop vite ou alors... Il y a peut-être confusion, je ne sais pas trop, parce que au départ il parlait toujours de son épouse. Alors moi je pensais qu'il était avec son épouse et puis voilà qu'il y a quelques jours, comme nous étions tout seuls, je lui ai dit mais vous êtes mariée. Il m'a dit mais non mon épouse est décédée. Alors bon bref, je comprends que c'est des situations qui sont difficiles. Mais je voulais pas trop mélanger les choses parce que de toute façon son histoire est certainement une histoire qui est enregistrée chez eux et s'il vient vers moi je veux pas qu'il y ait, je veux pas prendre sa place et en même temps il s'avance
sa
un
place,
peu
sa place malheureusement elle est libre elle est décédée depuis
combien de temps? Mais ce que je veux dire c'est que on a l'impression qu'elle avait une très grande place et que on peut pas se mettre à sa place à elle, si vous voulez, on a une autre place qui est différente. Et nous aussi, enfin, on a notre histoire.
Mais elle est décédée il y a combien de temps, Elisa?
Ça fait quand même 6 ans.
Ça fait 6 ans. Donc, 6 ans, visiblement, le deuil n'est peut-être pas tout à fait fait, mais 6 voilà. ans, il y a suffisamment de temps qui est passé pour que vous puissiez rentrer dans sa vie, je veux dire. Après, c'est toujours très compliqué parce que déjà une ex, elle garde toujours un peu de place. Une ex décédée, c'est un fantôme qui souvent, en effet, prend beaucoup de place. Mais vous n'avez pas de raison non plus de vous positionner comme si elle était encore là. Je veux dire, elle est décédée.
Non, mais
elle
c'est parce que c'est de la manière dont il en parle.
J'ai bien compris. Mais c'est son histoire à lui, ça, la manière dont il en parle. C'est à vous de savoir si cet homme vous intéresse. Et si cet homme vous intéresse, c'est en prenant votre place que vous allez lui permettre aussi de la laisser partir un peu plus.
Quel est votre désir à vous, Elisa? Comment vous le voyez, cet homme? Vous l'envisagez ou vous ne l'envisagez pas dans une relation
amoureuse? Je l'envisage, mais je suis hésitante parce que par moments... il y a des choses qui me dérangent et puis en plus mais on voit que comme je vois là l'autre jour il avait l'air de dire que il avait choisi cette table et puis son copain n'était pas là donc on était tout seul, il avait choisi la table donc ça lui faisait plaisir donc c'était bien et puis il s'avance et puis après des fois je me dis je veux pas me prendre une casserole encore parce que
mais on sent Elisa des peurs là, vous avez des peurs, on est d'accord. Vous savez, je crois que toute amoureuse ou amoureux qui va plonger dans une histoire d'amour, c'est un aventurier. Une relation, je le dis souvent pendant les conférences, c'est toujours un pari, Elisa. Hein. Donc c'est des paris gagnants ou perdants, mais à un moment donné pour savoir si l'eau est bonne, il faut plonger. Sinon on fantasme si l'eau est bonne ou pas bonne. Hein. On reste tous les jours devant la piscine ou devant la mer et on ne sait pas si l'eau est bonne. C'est effectivement une aventure. Vous devez prendre le risque.
Enfin, en tout cas, vous avez intérêt à le prendre puisque visiblement, il vous plaît, cet homme.
Ben oui.
Et son ex, elle est plus là. Donc, vous ne risquez pas qu'il retourne avec.
Évidemment.
Donc, la place est libre. Après bien sûr que c'est compliqué parce que vous n'avez pas envie d'en dire du mal. Vous êtes dans une position qui est un peu délicate. Mais prenez votre place tranquillement. Quand il parle de sa femme qui est décédée, écoutez-le un petit peu et dites-lui que vous êtes là et que vous êtes prête à continuer son chemin à côté de lui. Et puis vous verrez comment les choses évoluent. Mais moi, je suis d'accord avec Christophe, il faut prendre ce risque.
Mais oui, c'est une aventure. Les amoureux sont de grands aventuriers, Elisa.
Mais c'est tout à votre honneur d'ailleurs de vous sentir un peu mal à l'aise parce que de toute façon elle ne reviendra plus malheureusement pour lui et puis peut-être heureusement pour vous. Merci en tout cas Elisa. Merci beaucoup Christophe Médici.
Merci,
je crois
Brigitte.
Qu'on a un petit peu avancé et on voit bien comment c'est difficile d'être déjà en haute qualité relationnelle avec
si
soi-même.
Si vous me permettez de dire une dernière chose là-dessus Brigitte.
Je vous en prie.
Je dirais que ce que je remarque le plus souvent depuis 13 ans que je transmets les outils relationnels de la méthode, et merci d'avoir parlé du stage, hein. Ils peuvent aller
rapidement,
d'ailleurs,
on
fait un cadeau.
Non, mais rapidement Christophe,
voilà,
s'il
rapidement,
vous plaît.
C'est le gros travail qu'ont les gens à faire, mais vraiment, hein, c'est de s'aimer. Mieux eux-mêmes déjà. S'aimer mieux, Brigitte. C'est vraiment la HQR, s'aimer mieux. Vraiment.
Et je suis bien d'accord. Merci Christophe Médici, merci à tous. Et puis tout de suite, vous retrouvez C'est votre avenir.